qui sont derrière toi?
Oh, je dirais probablement 95%.
Puis l'autre 5%, c'est juste pour les apparences, Joël?
Non, ce sont des livres que j'ai achetés, mais que j'ai pas encore eu le temps d'exploiter, de lire ou de commenter ou quoi que ce soit. Tu sais, l'idée, quand tu passes dans une librairie, tu vois des livres qui t'intéressent, puis ouais. Tu peux avoir envie de les prendre ou sur Internet, dans les librairies virtuelles. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas avoir le temps de le lire à un moment donné ou à un autre, mais c'est toujours utile quand tu sais que tu as des projets. Puis, ah, OK, ça va, j'ai 3-4 livres qui sont là. Je vais pouvoir, en fait, les utiliser au bon moment pour pouvoir, justement, étayer des propos ou des commentaires que je pourrais faire.
Ouais. Écoute, j'achète à peu près 2 à 3 livres papier maintenant par année. Sinon, les autres, pour la plupart, là, c'est vraiment numérique. Là. On dirait que j'amorce ma fameuse tangente là, numérique pour ce qui est de la lecture de livres parce que je trouve que, ben, de un, ça se transporte mieux. Le livre, peu importe où tu le mets, il va garder quand même sa beauté. Là. Il est à l'intérieur de ta tablette. Fait que nécessairement, tu es correct. Mais j'ai vu qu'il y avait... je sais pas, Pascal, si tu as vu ça, mais dans un magasin de décoration, il y avait des murales sur lesquelles il y avait des bibliothèques maintenant. Avec des livres à l'intérieur.
Oh, ça me dérange. ça, puis les faux livres. Oui. Il y a eu des faux livres, là, c'était juste, mettons, le dessus de ton livre, là, ouais. En carton.
Juste pour la décoration.
C'était vide à l'intérieur. C'était vraiment pour la décoration. Je trouve ça un peu déplorable.
Mais je pense que c'est avec l'avènement des Zooms et tout ça, les gens se cherchent une décoration derrière.
Oh. Ah, peut-être.
Pour mettre sur le mur. Puis ils prennent justement la fameuse murale avec une bibliothèque.
Ils prendront pas l'espace, ils vont garder ça. De... Mais il n'y a rien comme un livre physique, Yannick.
Ouais.
Une belle bibliothèque que tu parcours.
Faut que tu le traînes. Quand je l'amène, quand je vais dans le sud, d'ailleurs au mois de décembre, je vais aller faire un tour dans le sud, là, j'amène tout le temps un livre papier. Je trouve ça vraiment nice, mais c'est vraiment pratique quand c'est numérique.
Si tu voyages, c'est sûr.
Exact. Joël, on avait des choses à discuter avec toi aujourd'hui, entre autres une étude qui nous a été rapportée par Joseph Facal. Il parle de chercheurs en psychologie qui sont rattachés à l'Université de Northwestern à Chicago. Et eux, ils ont interviewé confidentiellement 1450 étudiants de premier cycle. Puis le but des interviews, c'était de vérifier si les opinions exprimées à haute voix par les jeunes universitaires reflétaient ou non leurs vraies convictions. On s'est tous déjà posé la question, Joël, sur les étudiants de l'UQAM. Qu'on entend, que ce soit à la radio, qu'on entend à la télé ou dans des vox pop. Guy Nantel, quand il veut interviewer des gens, va souvent en face de l'UQAM parce que il y a des gens qui sont extrêmement colorés avec des opinions. Des fois, tu te dis, attends un peu, ils sont rendus sur quelle planète? Ça t'a-tu surpris les résultats de cette enquête-là par ces deux chercheurs sur le fait que, effectivement, il y a des gens qui expriment des opinions, mais ça ne reflète pas vraiment leurs convictions?
Non, malheureusement, je n'étais vraiment pas surpris, mais j'étais vraiment content qu'une étude exhaustive avait été faite pour justement essayer de sensibiliser le monde universitaire à ce danger-là. Et puis je dis le monde universitaire, mais ça concerne aussi les écoles secondaires. Je crois que beaucoup de jeunes ont de la difficulté à s'exprimer dans le clair. Moi, je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec mon garçon il y a peut-être 2 ans. Il faut savoir que mon fils a fait 2 ans l'école à la maison, puis pendant cette période-là, il avait fait de la philosophie avec un de nos amis, un ancien prof de cégep, justement du Vieux-Montréal, qui l'avait amené justement beaucoup à réfléchir et tout. Donc, on a souvent des grandes discussions.
Okay.
Et donc, en fait, on écoute une entrevue à la radio et puis il me demande, « Papa, tu penses quoi de ça ?» Je dis, « Ah, j'ai mon idée, mais j'aimerais t'écouter avant. Toi, qu'est-ce que tu en penses ?» À ce moment-là, il a 13 ans, 13 ans et demi. Et il me dit, « Tu sais, papa, je ne peux pas penser. Penser, c'est dangereux. »
Penser,
et ça,
c'est dangereux.
Ça m'avait vraiment estomaqué parce que je dis, mais qui est-ce qui va te faire des reproches? Est-ce que ce sont tes professeurs parce que tu exprimes des idées qui ne leur conviennent pas? Il me dit, non, non, c'est les copains et les copines de classe. Et c'est très difficile de pouvoir arriver à avoir un avis. Il faut réagir d'une certaine manière. Puis si on veut trouver un minimum d'espace, si tu veux te faire aimer, si tu veux te faire apprécier par les personnes de ta classe, ben, tu es obligé de fitter avec le monde. Puis déjà que je ne joue pas des jeux vidéo, vous en connaissez la raison, c'est certain que pour lui, ben, c'était compliqué d'essayer de pouvoir arriver à s'affirmer. Puis il a gardé beaucoup le silence dans des débats. C'est certain que je parle beaucoup avec lui quand on est en tête à tête, quand quand on se promène ensemble, mais pour, dans le domaine de l'école ou dans l'espace de l'école, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Et je te raconterai une autre anecdote. C'est le fils d'une de mes amies qui m'avait partagé ça il y a peut-être 2-3 ans. Il est dans une école. L'école est en train de transformer toutes les toilettes masculines en toilettes unigenrées. Et lui pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on enlève les urinoirs? En quoi est-ce que ça dérange quelqu'un que certaines personnes, en l'occurrence des garçons, puissent préférer faire leurs besoins en étant debout? Il n'y a personne qui a rien dit dans la classe, y compris le professeur. Et le lendemain, il est convoqué par la direction d'école et on lui dit, ben écoute, si la prochaine fois que tu auras des propos homophobes, tu seras expulsé de l'école. Donc, il y a, tu vois, c'est des situations comme ça. Je t'en donne deux, mais je pourrais t'en citer des dizaines que j'ai déjà entendues chez des jeunes adolescents que j'accompagnais à l'époque où je faisais de la clinique, qui me partageaient ce genre de choses-là. Il y a une grande difficulté à pouvoir arriver à exprimer ce qu'on ressent, exprimer ce qu'on dit, si ça ne fait pas partie de la norme, un peu comme si on était à l'époque de l'omniprésence de la religion catholique et qu'il n'y avait qu'une seule et unique manière de penser.
Mais est-ce que je me trompe ou notre société, Joël, s'est bâtie avec des gens qui n'étaient peut-être pas nécessairement dans le même chemin que les autres? Donc, des gens qui partageaient peut-être pas les mêmes opinions que les autres, qui étaient un peu rebelles. Puis, à un moment donné, on a commencé à... Ah, tu vois, on n'avait pas pensé à ça. Les gens qui sont originaux, les gens qui sont rebelles, ont contribué à faire avancer notre société, tu sais. Quand on considérait que, je sais pas moi, que la personne noire est inférieure aux blanches, il a toujours bien fallu des noirs qui se battent pour faire valoir leurs droits, puis des blancs qui deviennent des alliés, tu sais. Gens-là. C'était des rebelles à l'époque, ces gens-là. Puis aujourd'hui, avec la lutte, autant des Noirs en particulier, mais aussi de certains Blancs qui étaient des alliés, ben ces gens-là ont réussi à se faire reconnaître comme étant des êtres humains. Quand tu penses comme tout le monde, Joël, tu ne contribues pas nécessairement à ta société.
Mais je pense qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Si on était trop souvent sur des nouvelles idées et qu'on s'ajustait continuellement aux nouvelles idées, on aurait peut-être de la difficulté en fait à donner une certaine direction à notre société. Donc je pense que le fait que des personnes aient des idées peut-être plus conservatrices et d'autres qui ont des idées plus avant-gardistes.
Sur le lac Saint-Jean hier, lorsque les
des bienfaits pour notre société fait partie du bien commun. Le tout, c'est est-ce qu'on peut avoir des espaces, surtout dans les lieux d'apprentissage. Au secondaire, au cégep, à l'université, où le jeune peut exprimer ce qu'il vit, ce qu'il ressent, comment il conçoit le monde, quitte à faire des erreurs et que l'enseignant soit là pour protéger justement les élèves qui ont des idées divergentes, de manière justement à ce qu'ils puissent trouver les bons mots pour exprimer leurs idées et contribuer en fait au bien commun de cette manière-là.
Mais il faut faire progresser. T'sais, si jamais les gens ne sont pas d'accord avec quelque chose, il faut entendre ces gens-là. Je regarde 78%, tu parlais d'identité de genre tantôt, dans la recherche de ces deux chercheurs-là sur les étudiants américains, c'est 78% de ces étudiants-là qui disent s'auto-censurer quand il est question d'identité de genre. C'est 77% de ces jeunes-là qui désapprouvent l'idée que le ressenti devrait primer sur la réalité biologique dans les sports, les soins de santé, l'identification, sur les documents officiels, mais avouent qu'ils ne le diront jamais publiquement, probablement par peur de se faire juger, par peur de se faire mettre de côté, par peur de se faire sortir de l'université où il étudie. C'est un peu gênant, là.
Mais ce que je trouve triste, c'est que ces jeunes qui ont peur, en fait, ils ont peur de se faire lâcher publiquement, de se faire mettre au banc, ou pire, les réseaux sociaux. Regarde ce qui s'est passé par rapport au défilé de la fierté gay la semaine dernière. Il a suffi que Safia Nolin sorte un commentaire comme quoi, en fait, en l'occurrence, elle refusait de participer à l'activité parce qu'il y avait des associations juives qui étaient présentes. Pourtant, ces associations juives défendaient les mêmes valeurs qu'elle, défendaient les valeurs LGBT. Merci. Donc, en fait, c'est ça. Mais il y a une difficulté à pouvoir arriver à nommer les choses et à se faire entendre, se faire respecter. Et ce que j'ai envie de dire souvent, ce qui amène ça, c'est que c'est rarement au niveau du débat d'idées que l'on va avoir un débat. Ça va être une attaque de la personne. Et c'est ça que nos jeunes ont peur de vivre. C'est qu'à la rigueur, qu'on se moque de l'uridine, c'est une chose, mais on va voir qu'on s'attaque à la personne, on fait des généralités, on manque de nuances, et cette généralisation, ce manque de nuances fait en sorte que le jeune, au niveau de son identité, alors qu'il est en construction de son identité personnelle, d'accord, ben à ce moment-là, il va préférer se taire plutôt que d'explorer ses idées, puis de voir l'incohérence parfois. Tu sais, un ado, c'est plein de vie, c'est plein d'engouement, de passion, et c'est parfois très contradictoire ce qu'il va penser. Mais pour qu'il puisse arriver à se créer sa pensée et à mieux la nuancer, il faut qu'il y ait des lieux dans lesquels il va pouvoir faire des erreurs. Il va éventuellement entendre les commentaires des autres, que ce soit un commentaire en termes d'idées ou de ressenti. Tu sais, quand tu dis ça, moi, ça me fait de la peine. Ouais. Ou quand tu dis ça, je trouve ça bizarre, ou je te comprends pas, d'accord? Et à partir de ce moment-là, c'est comme ça qu'il se construit, qu'il se donne le droit de pouvoir exprimer la belle personne qu'il est, même s'il va avoir des idées différentes que Pierre, Jean-Jacques ou Juliette et Martine.
En même temps, un ado, on ne s'attend pas à ce que cet ado-là soit un conformiste. On s'attend à ce que cet ado-là soit anticonformiste, tente d'essayer de repousser les limites. Peut-être qu'il y a une raison biologique à ça, le fait que quand on est ado, on ne veut pas être comme tout le monde. Mais là, rendu à l'université, de voir que faut que tu rentres dans le moule, sinon ça ne peut pas, ça peut pas bien aller pour toi. Ça fait une société un peu robotique, là, des gens qui doivent être toutes pareilles, penser toutes pareilles. Et là, quand c'est le temps de parler de politique, exemple, je regardais les statistiques là, de leurs recherches, 72 % des jeunes universitaires s'auto-censurent dès qu'on leur pose des questions par rapport à la politique. C'est 7 personnes sur 10, Joël. Il n'y a pas un danger à ça?
Mais en fait, il y a des dangers au niveau de la démocratie. Quand on va un peu plus large, il faut regarder comment M. Duhaime a été couvert par beaucoup de médias dans les dernières semaines où on s'attaquait beaucoup plus à la personne qu'aux idées du Parti conservateur. Alors, on a le droit d'être en opposition avec ce que le Parti conservateur propose. Absolument. Comme société. Ouais. J'ai aucun problème avec ça. Mais est-ce qu'on devait s'attaquer à la personne d'Éric Duhaime? Et ça a été la même chose avec M. Poilievre, c'est probablement la même chose dans beaucoup d'autres espaces, et c'est que c'est une perte de démocratie quand on ne peut plus arriver à pouvoir discourir en tant que tel. Je crois qu'il y a peut-être aussi un élément qui est intéressant, c'est de constater que, tu sais, par exemple, le fédéral n'a pas le droit de s'ingérer dans l'éducation, parce que c'est une compétence provinciale. Donc la manière dont il arrive dans l'université pour mettre son grain de sel, plutôt de donner directement l'argent aux provinces, eh bien, il a créé notamment les chaires de recherche, et certaines chaires de recherche sont dépendantes du gouvernement fédéral pour survivre, et on leur demande, en fait, de démontrer qu'ils sont ouverts à l'équité, démontrer qu'ils ont tout fait pour pouvoir arriver à avoir un laboratoire qui représente, en fait, les différentes couleur de notre société. L'intention n'est pas mauvaise en tant que telle, mais là où ça peut venir problématique, c'est est-ce qu'on choisit un professeur en fonction de sa couleur de peau ou de sa religion, ou est-ce qu'on choisit un professeur en fonction de ses compétences? Est-ce qu'on choisit un élève, est-ce qu'on recrute un étudiant dans son laboratoire pour des données, de citoyenneté, ou pour les compétences avec lesquels il vient et qu'il peut développer à l'intérieur de l'équipe universitaire? Et en fait, on voit à ce moment-là que les professeurs pris un peu dans l'engrenage de la dépendance financière par rapport à ce que le fédéral peut offrir comme subvention, notamment par rapport aux instituts de recherche, eh bien, à partir de ce moment-là, ben, ça fait en sorte que petit à petit, on va avoir un glissement de pensée, un glissement idéologique qui fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile d'oser être différent.
Il y a des gens qui nous écrivent au 88-971-1021, ça va dans tous les sens. Il y en a qui disent « Ah, mais mettons, pour un politicien, il parle de Duhaime parce que c'est l'exemple qui était amené. » C'en est un qui critique les personnes à longueur d'année. Pour lui, c'était plus le retour du balancier à ce moment-là. Il y a des gens aussi qui craignent la tyrannie des minorités bruyantes, donc qu'il y ait moins de place à ceux qui pensent autrement que ceux qui crient très, très fort, mais qui sont peut-être minoritaires. Est-ce que ça part de l'adulte, Joël? Dans le climat familial, je me rappelle avoir étudié en psychologie à quel point les soupers familiaux étaient importants. Ça se perd, ça, de se rassembler en famille puis de laisser son enfant discuter puis de pas le faire sentir jugé de son opinion politique ou de son opinion de la vie du monde. Ça venait-tu de là?
Mais je pense qu'il y a un enjeu familial, tu as entièrement raison, Pascal. J'aurais envie de reprendre le référendum de 95. Combien de gens aujourd'hui ont peur qu'on ait un nouveau référendum parce qu'ils ne veulent pas revivre les déchirures qu'ils ont vécues à l'époque, parce que justement les familles avaient des opinions, enfin les membres des familles avaient des opinions différentes et s'entre-déchiraient en fait avant le jour de les, comment dire le jour du référendum. On a eu la même chose par rapport à la manière dont on a vécu la pandémie, où les mesures sanitaires certaines étaient géniales, d'autres étaient vraiment problématiques et de nécessité d'être questionnées, discutées entre nous au sein de la famille. Alors si nos jeunes voient que les adultes sont même pas capables de s'écouter, s'insultent, surtout si l'alcool peut être éventuellement présent, qu'il y a un clivage à l'intérieur des familles, si tu penses comme moi ou que je te rejette, tu es comme moi ou alors tu n'existes pas, eh bien à partir de ce moment-là, ça n'aide pas non plus les jeunes à oser se positionner dans un débat d'idées qui serait tout à fait sain et naturel et normal et nécessaire pour une démocratie.
Quand on a, je sais pas moi, un travail pour un master à l'université, puis là, c'est le cas des étudiants à l'université aux États-Unis, il y a 80% de ces étudiants-là qui ont remis des travaux qui reflètent ce qu'ils pensent de leur professeur, ce qu'ils pensent que leur professeur veut lire. Donc, plutôt que d'exprimer le fond de leur pensée, dans un master, exemple, ben, ils vont se dire « OK, ben voici mon professeur ou la personne qui s'occupe de moi, voici comment elle est, je vais rédiger ma thèse de master, puis elle va me donner une bonne note parce que je vais dire exactement ce qu'elle s'attend à ce que moi je dise, plutôt que ce qu'elle pense. Mm. » C'est catastrophique.
Mais ça, je l'ai senti dans un cours à l'université en débat, c'est vrai, ce que cette personne-là peut dire. Je sentais que si j'écrivais pas ce que... Puis ça faisait déjà quelques années que je travaillais en radio, fait que pour moi, j'y allais avec... ce que je croyais être un débat. Puis cet enseignant-là, je sentais que dans sa correction, il fallait être en accord avec lui.
Oui, puis je te dirais que ce n'est pas juste dans le domaine des sciences humaines. Je vais prendre un exemple que j'ai vécu pendant mon doctorat. J'ai fait deux découvertes avec des données validées, démontrées, scientifiquement prouvées, entre guillemets. Une découverte qui remettait en question une théorie de mon patron et l'autre découverte qui remettait en question la théorie du meilleur ami de mon patron. Puis il faut savoir que ces deux hommes-là sont deux des trois personnes les plus célèbres dans le domaine dans lequel j'ai étudié. Donc ce sont des sommités mondiale et archi reconnue. Donc moi, je les remettais en question avec les données que j'ai prises, que j'ai réussi à observer. Et en fait, mon patron n'a pas voulu que je les exploite, ces données-là, parce que ça remettait trop en question des fondements auxquels il pensait. Et même dans ma thèse, si mon président de jury n'avait pas demandé à ce que je maintienne ma position par rapport à ce que j'avais, les données scientifiques, elles étaient là, elles sont mathématiquement sur la table, d'accord? Eh bien, à ce moment-là, c'est grâce à mon président de jury que je l'ai mis dans ma thèse. Et du jour où j'ai remis en fait ces données-là dans ma thèse, mon patron a refusé de lire après ma thèse. Donc je l'ai défendu, j'ai réobtenu mon doctorat et tout, mais on voit qu'il y a parfois une difficulté, certains universitaires, d'oser être remis en question. Puis si on peut prendre le cas de Patrick Provost, la base de tout ce qui s'est passé dans son histoire tellement triste, c'est qu'il a juste posé une question éthique nécessaire en tant que société démocratique. Est-ce qu'on ne va pas trop vite avec l'utilisation d'un médicament présenté comme un vaccin pour des jeunes qui n'ont pas nécessairement de risque de tomber gravement malade avec le COVID? Et quand on voit la suite de son expérience, on peut voir à quel point, parce que lui a osé se prononcer, on voit à quel point parfois même le côté scientifique, médical ou de les sciences un peu plus mathématiquement démontrable à ce moment-là, mais on voit aussi que là aussi, c'est difficile de pouvoir arriver à avoir des opinions différentes que ce que la tangente générale devrait nous inviter à penser.
Ouais, États-Unis, Canada, bon, on se ressemble un peu. J'imagine que les auditeurs qui t'écoutent, Dr. Joël Monzé, ben, ils ont perçu que tu avais un accent peut-être européen. Est-ce que en Europe, il y a place au débat et aux idées qui sont peut-être pas conformistes? Parce que j'ai l'impression qu'au Canada, aux États-Unis, on fait beaucoup d'autocensure entre nous, on a beaucoup de gens qui nous dirigent ou encore des professeurs qui nous enseignent qui sont très, très conformistes puis ils s'attendent à ce que les étudiants, quand ils vont sortir, qu'ils soient conformistes aussi, puis on a l'impression que ça clignote souvent à gauche comme Joseph Facal le mentionne. En France, quand j'écoute des émissions françaises, j'ai l'impression qu'il y a plus de place au débat là-bas, avec des opinions qui, des fois, sont complètement à l'opposé. Là, quand il y a un débat, tu dis « Wow! » Tu sais, là, j'ai l'entièreté du sujet au grand complet avec deux personnes qui ont les mêmes, le même CV, mais qui ne pensent pas pareil. Puis là, ben, je peux me faire ma propre idée. Mais ici, on n'a jamais ça, Joël. Est-ce qu'on est une société à part?
Mais je pense que ça fait peut-être partie des défis que nous avons encore à oser affronter en tant que société. Comme quand tu disais, je pense que parfois, les Européens, quand ils discourent, quand ils argumentent, ils ne s'écoutent pas. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a un meilleur débat de société. C'est vrai qu'on va entendre, en fait, des avis qui seront peut-être contradictoires, mais ça ne veut pas nécessairement dire que les gens s'écoutent et que les gens se rassemblent. Moi, c'est une des choses que j'ai trouvé vraiment agréable quand je suis arrivé au Québec il y a une trentaine d'années, c'est que, justement, il y avait beaucoup plus de chaleur humaine et beaucoup plus de respect et d'écoute. Maintenant, en même temps, ben, c'est certain que tout ce comme les élèves ne sont pas formés à l'argument, que argument entend souvent dispute, eh bien c'est certain que beaucoup de jeunes, à part ceux qui vont faire sciences politiques ou le droit, ne sont pas préparés en fait à oser s'affirmer dans une idée spécifique. Je reprends l'exemple de ce qui s'est passé des sciences de la santé. Toute la science se base sur un débat contradictoire où il va y avoir des données qui sont plus ceci ou plus cela ou qui vont venir se nuancer les unes les autres pour avoir une théorie relativement complexe à expliquer. OK? Mais regarde à quel point la manière dont on utilise le mot science dans les médias, parfois, parce que je peux comprendre que, par exemple, vous deux, vous liriez une étude scientifique de neurosciences, probablement que ce serait difficile pour vous, c'est pas votre métier. Donc c'est difficile peut-être d'appréhender un certain nombre de choses. Donc on est obligé, nous, comme scientifiques, comme experts, on est obligé de vulgariser. Mais c'est pas parce qu'on vulgarise que nécessairement on prend le bon choix dans la manière de proposer, en fait, nos idées et ainsi de suite. On fait un choix et le choix est totalement humain. Et si je reprends l'exemple de ce qui s'est passé pendant la pandémie, on voit qu'il n'y a qu'une seule manière d'avoir parlé du virus qui a été mise de l'avant, même si dans d'autres pays, tu parlais tantôt de la France, on peut parler de l'Europe, on peut même parler aussi des États-Unis, mais probablement que dans d'autres secteurs, il y a peut-être d'autres manières de percevoir justement la santé, la globalité et ainsi de suite, et de favoriser justement le partage d'idées, le partage de perceptions. Si tu savais le plaisir que j'ai eu quand je faisais de la clinique, d'écouter les gens, d'écouter la manière dont ils concevaient la vie, dont ils percevaient les différentes situations. Oui, mon rôle, c'était d'être un thérapeute et de les accompagner et de leur permettre de développer de meilleures ressources en santé mentale. Mais en même temps, je trouvais ça vraiment fascinant de voir la structure de pensée, y compris des gens qui ont fait des actes criminels ou d'autres personnes qui ont eu des vies fantastiques quand ils étaient sur leur dernier run de leur vie, en fait.
Joël Monzé, c'est toujours un plaisir de t'avoir à l'émission. Merci beaucoup pour ces éclaircissements.
Avec plaisir.
On peut aller sur ton site web si on veut plus d'informations sur tes livres, sur tes chroniques.
Oui, joelmonzé.com ou cerveau-et-psychologie.com. Vous allez avoir plein de ressources si vous le souhaitez.
Salut, mon ami.
Merci.
Merci.
Bye-bye. L'exceptionnel Joël Monzé qui était avec nous dans les dernières minutes. C'est assez particulier hein, ce qu'on peut lire de cet article-là de Joseph Facal qui mentionne clairement que les jeunes, à la sortie de l'université, rapportent mentir carrément sur ce qu'ils ressentent à l'intérieur parce qu'ils savent que leur opinion ne sera pas bien perçue dans la société. Fait qu'ils vont répondre quelque chose de conformiste qui va plaire à une majorité d'individus. Le problème étant que l'autre bord va s'attendre à avoir ça, puis même s'il pense la même affaire que l'autre, ben il dira pas non plus.
Ouais, puis il y a tellement de points importants. Puis c'est sûr que moi ça vient me gratter ma fragilité des études là. Tu sais comment j'aime ça, puis que si je pouvais, je continuerais à temps plein d'apprendre. Puis mais ça vient me gratter un peu ma sensibilité de me dire, hey, je peux pas croire que des universités où les enseignants par exemple sont pas régulés en ce sens-là, puis qu'on fait pas plus de. Mais pour l'avoir vécu avec le cours dont je te parlais, tu sais, il y a un cours dans la vie j'ai passé ça à fesse, puis c'est celui-là. Mais ça a fait 7 ans comme le 60, là. Je pense que j'avais eu 62. Puis j'étais bien flabbergastée par ça. Je me disais, hey, c'est ce que je fais dans la vie. qu'est-ce qui se passe. Puis je m'étais adonnée à aller jaser plus longtemps avec, avec l'enseignant. Puis j'ai senti que le pourcentage, par exemple, qu'il m'a ajouté, là, c'était pas parce que, mon Dieu, il avait aimé mes travaux ou quoi que ce soit. J'avais senti que c'était par la discussion. Puis là, je me dis, crème, on a un méchant problème parce que il y a d'autres élèves qui n'avaient pas fait ces démarches-là. Puis je me dis, eux, sont pas dans leur métier. Puis ils se font noter en cotation de est-ce que on est en accord avec l'enseignant ou pas. C'est un peu étonnant. Parce qu'après tout, ce qu'on veut en société, c'est une pluralité de discours, d'opinions. Tu sais, toi et moi, on est jumelés ensemble parce que ça nous arrive plus régulièrement qu'autrement de penser différemment. Fait qu'on peut en jaser en ondes.
C'est l'histoire de ma vie.
Mais ça, moi, je trouve ça beaucoup plus nourrissant puis intéressant. Ouais. Puis dans la démocratie qu'amenait Joël Monzé, mais il y a ça, si à un moment donné, les gens sont écœurés de se faire écœurer à parler, à dire leur opinion, rendu aux élections, il y a une faible majorité qui pourrait aller voter, par exemple, ce serait celle qui parle plus fort.
Oui, puis je répète, une société avance et s'adapte avec des gens qui sont anticonformistes, des gens qui sont rebelles, qui remettent en question l'ordre établi. Une société ne s'est jamais bâtie et améliorée avec des gens qui sont toujours conformes, qui amènent jamais de nouvelles idées, qui sortent jamais en dehors du cadre. Puis ça, c'est pour les sociétés, mais la musique, c'est la même chose. L'art, c'est la même chose. Mm-hmm. Si on était resté pogné en 1600, mais l'art n'aurait pas tant progressé. Gens rebelles, on en a besoin dans notre société. Les groupes politiques rebelles qui font pas de mal à personne, qui n'ont pas des idées complètement débiles, on en a besoin dans notre société. Je le sais que des fois, je fais des jokes avec Québec solidaire, mais un Québec solidaire, des fois, on en a besoin, puis on a écouté peut-être les gens qui sont moins entendus. Tu te dis, OK, ben regarde, tu vois, j'avais jamais pensé à ça sous cet angle-là. Puis même si c'est pas mon angle politique, je peux comprendre pourquoi lui pense telle affaire. Mais si on demande aux gens, hey, savez-vous quoi, pour ce qui est de, je sais pas moi, des toilettes non genrées, ben l'ordre établi, c'est ça, puis on veut plus rien savoir, puis si vous pensez le contraire, on veut pas que vous embarquiez là-dedans, on progressera jamais.
Ben oui, puis on fait un parallèle avec ce qu'on a discuté un peu plus tôt à l'émission avec Sam Hamad puis Steven Dumelançon. Au municipal, Sam Hamad était là à 11h30, le podcast est disponible sur le blvd.fm, mais il l'a dit, il dit « Moi, je dois aller sur le terrain avant de passer un projet de loi, un règlement ou autre parce que j'ai besoin de savoir dans la vie comment ça fonctionne pour les autres, pour ceux qui n'ont pas la même vision que moi, de rester dans la même boîte puis fermer la boîte puis parler à mes homologues qui, eux, ne sont pas dans cette... Dans ce quotidien-là, par exemple, ça ne me ferait pas avancer. Mmh. Puis tu as fait une nuance que je trouve importante de surligner en ce moment dans notre discours. Là, on parle pas de groupes qui s'en vont à l'encontre des droits humains,
mais non.
Qui vont faire, de la démagogie. On s'en va pas là-dedans.
Les mauvais patrons que j'ai eus là, dans ma vie, je n'ai pas eu de temps, OK? Mais les mauvais patrons que j'ai eus, là, ils voulaient toujours des employés qui étaient conformes, qui répondaient exactement
à leurs critères.
À leurs critères.
Qui challengent pas.
Exactement.
Qui veulent pas se faire challenger, c'est
les
ça ma
Les meilleurs phrase. Patrons que j'ai vus, là, c'est les gens qui étaient capables de s'asseoir avec les employés puis d'entendre ce que tout le monde avait à dire. Ils écrivaient tout, ils prenaient des notes. Après ça, c'est
Réfutaient
de la réflexion.
Pas.
Puis là, un moment donné, ils nous arrivaient en disant « Savez-vous quoi? J'ai pensé à ce qu'on s'était jasé. J'avais pas vu ça sous cet angle-là. » On pourrait peut-être faire telle affaire, ça pourrait peut-être fonctionner. On pourrait peut-être faire telle affaire, ça pourrait fonctionner. La pire des affaires, c'est de continuer comme ça dans l'espoir qu'un jour, ça change. Mais on a toujours la même recette. Ça ne pourra jamais changer. Si c'est un fiasco, ça va toujours être un fiasco. Tu sais, je parlais du système de santé avec toi et Denis. Je sais qu'après, à chaque année, il y a toujours les mêmes choses qui arrivent. Les gens, les infirmières, les médecins, les auxiliaires, préposés aux bénéficiaires, ils ont besoin de vacances. Fait que là, ils veulent leurs vacances pendant le temps des fêtes. Mais là, si ils ont l'ancienneté, ils vont pouvoir prendre leurs vacances dans le temps des fêtes, ce qui fait en sorte que c'est les nouveaux qui vont être là, puis les moins anciens. Puis là, eux autres, ils sont fatigués, ils font de longues heures. Fait que là, toi, tu vas aller à l'hôpital, tu vas avoir des lits fermés parce qu'il n'y aura pas assez d'employés. Puis là, dans le journal, ça va être écrit que le nombre de civières est dépassé, puis c'est une augmentation de 130%.
Tu trouves un agenda, puis t'es capable de savoir quelle nouvelle va sortir à quel
Tout
moment dans l'année, selon le département, par exemple.
Tout le temps. Puis on prend toujours la même recette, puis on espère tout le temps un résultat différent. Mais quand je te dis des gens rebelles, c'est les gens qui vont dire, t'as peu, là, vous faites ça à chaque année, puis ça arrive à chaque année, le bordel.
Je vais me faire ramasser tout ça, mais je vais être là pour une conviction.
T'as peu, toi, tu veux changer les choses, ça a tout le temps été de même, ça va rester de même. Ouais. Faut que tu les écoutes, ces gens-là, puis en autant qu'ils amènent des solutions, bien entendu.
Tu parlais du patronat, là.
Oui.
Il y a une chose. Moi, je vais me souvenir d'un patron qui est passé dans ma vie, là, puis écoute, j'étais bébé, là, j'avais 21, 22 ans, puis il m'a assis avec du monde de plus vieux, puis de tout acabit dans l'entreprise, puis il avait dit à son monde, vous avez 24 heures pour telle affaire. Il était bloqué dans sa tête. Puis ils se disaient, crème, je pense que je suis capable, mais en même temps, c'est eux qui sont sur le terrain. Ils nous avaient donné 24 heures, un exercice où le lendemain, il fallait revenir puis présenter notre façon de faire. Puis après ça, ils avaient rencontré chacun d'entre nous, puis ils avaient dit, ceci, ceci, cela, extraordinaire, m'avait fait avancer la pensée. Ils nous avaient même ventilé ce que ça avait fait avancer dans sa tête, où est-ce qu'il veut amener l'entreprise.
Exactement.
Puis à la toute fin, il avait dit, mais voici pourquoi ton idée, celle-ci, ne s'applique pas. Fait que nous, on avait appris en plus position de gestion, une façon de faire de la gestion, mais également comment ça marche dans l'entreprise dans laquelle on travaillait. Fascinant.
Il y a un auditeur qui nous écrit au 418-971-101, puis je vais prendre son mot. Là. Il dit, salut, je me suis toujours défini, moi, comme un anticonformiste constructif. Ben, c'est des gens de même qu'on veut dans cette société. Ça fait avancer. Lance ton politique, mon ami. Voilà, c'est dit. 13h29, j'ai quelque chose pour vous autres. J'espère le retrouver rapidement. Soyez prêts par texto au 88-971-1021. Les grands feux Loto-Québec qui sont de retour tous les mardis et jeudis, donc à partir de ce soir. C'est du 31 juillet au 23 août. Les deux rives du fleuve vont s'illuminer au rythme des grands feux Loto-Québec avec une thématique différente. Boulevard, on est partenaire. Soit dit en passant, si vous ne le savez pas encore, quand vous regardez les grands feux Loto-Québec, allumez ça à Boulevard 102.1. La musique est synchronisée avec les feux d'artifice. C'est comme ça que les ingénieurs l'ont bâti, ce spectacle-là. Fait que c'est un plus. Si vous êtes fan de bière, ben vous êtes les bienvenus, bien entendu. Si ta couleur préférée, Pascal, c'est le vert, ben, c'est le fun. Les Irlandais de cœur. T'es-tu une Irlandaise de cœur?
Non, mais on a pas mal tous des racines irlandaises en passant.
C'est vrai?
Oui. Ici, là?
Moi, j'ai toujours dit de la merde en disant oui, j'ai le droit de boire à Saint-Patrick. J'ai des racines irlandaises. J'ai un mauvais caractère, mais j'ai jamais su si j'avais des racines irlandaises.
On en a majoritairement ici, les Québécois.
C'est
ouais.
vrai?
On a été marqués par une immigration importante, là, des vagues liées c'est à la grande famine en Irlande. Veux-tu que je continue?
Merci aux Irlandais d'être venus. Les filles rousses, il n'y a rien de plus beau que ça.
Ah, bon. Super.
C'est quoi je parlais?
Moi, je te parlais de grande famine, de pourquoi les Irlandais sont arrivés ici.
Ah oui, le 21 août, c'est la soirée de la Sainte-Patrick qui est présentée par Boulevard 102.1 et on a des places assises dans la zone réservée à faire tirer. Donc, vous devez texter actuellement pour gagner ces places en première loge pour toi puis trois autres de tes amis. C'est dans le VIP. 418-971-1021, 418-971-1021. Et si tu préfères la version gourmande, ben rends-toi au blvd.fm pour gagner un souper. Trois services concoctés par la célèbre chef Marie-Chantal Lepage au Cabu Boire et Manger avant de te rendre au Feu Loto-Québec. Pour en savoir plus sur la programmation des Feux Loto-Québec, c'est lesgrandsfeux.com, lesgrandsfeux.com. Donc, à l'instant, par texto. Quatre places assises dans la zone réservée pour le 21 août. C'est la soirée Sainte-Pat, donc la soirée de la Saint-Patrick. Le mot de passe, Pascal.
Vas-y, c'est moi qui le donne.
La rousse est douce.
Non!
J'aime ça, moi. La rousse est douce. Ça sera ça, trop tard.
Ah,
ouais. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, qui sont plus vite. 13h31.
Marceau le midi.
Il y a quelqu'un qui traverse